les jardinières.
Bien le bonjour et bienvenue parmi les jardinières. C'est le week-end tant attendu de tous les jardiniers. C'est aujourd'hui que commencent les Saintes Glaces. Tout jardinier amateur ou professionnel considère cette période comme une épée de Damoclès pointée au-dessus des cultures. Ces dernières sont fortement exposées au risque de fortes gelées. Encore un peu de patience avant de sortir vos semis. Et en attendant, eh bien, place aux jardinières pour les bons conseils. Avec moi ce matin, Mylène, bonjour.
Bonjour Sophie et bonjour à tous. Ce matin, pour nous aider à y voir clair dans cette période cruciale de l'année, nous recevons Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Vous avez une heure pour poser toutes vos questions jardinage à notre professionnel. Composez le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour parler directement à Olivier. Sinon, vous pouvez envoyer un message au 939. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Et puis bien sûr, le formulaire disponible sur nos sites internet sous émission questions aux jardinières. Voilà, le décor est posé. Les jardinières, c'est parti.
7 heures. 8 heures, les jardinières.
Et on commence tout de suite avec un formulaire reçu par Elisabeth de Basse-Cour. Elle nous a posé deux questions. Voici la première. J'ai une pivoine ou rose de mai plantée en terre dans de la rocaille, voilà 4 ans. Chaque année, elle devient très grande, mais il ne vient que 2 à 3 fleurs. Et elle se demande pourquoi, Olivier Ribaud.
Alors c'est un petit problème qui peut arriver chez les pivoines, justement comme elle le précise, elle a sûrement une terre dans sa rocaille qui est peut-être trop lourde, trop compacte et très graveleuse, et ça peut arriver que justement cette pivoine, donc elle a une racine de où par les feuilles chaque printemps, elle est peut-être trop serrée et puis peut-être trop profonde. Alors le feuillage peut sortir, peut faire des magnifiques feuilles, mais après la plante n'a plus assez d'énergie pour ressortir des boutons. Et peut-être que si ça fait déjà 4 ans et puis encore enfermé dans ce terreau trop dur, ce serait bien peut-être qu'une fois à l'automne, au mois d'octobre, comme ça, elle va redéplanter cette pivoine, elle va la diviser peut-être en 2 ou 3 morceaux de racines et puis les replanter avec une terre un peu plus légère, un peu plus riche, un peu plus avec améliorer le sol avec un peu de compost pour que cette terre devienne un peu plus fertile. Et puis replanter ses rhizomes, donc ses morceaux de racines qu'elle aura peut-être cassés sans faire exprès, mais c'est pas grave, ça va la diviser, et puis la replanter moins profond, je dirais, qu'on normal, mais que le haut du bulbe de cette racine de pivoine ressorte l'année suivante plus rapidement, et puis normalement elle va refleurir plus facilement. On dit toujours que les pivoines, tous les 6, 8, 10 ans maximum, il faudrait les redéplacer pour justement refaire cet effet de leur redonner un coup de fouet, de vie, pour refaire des nouvelles fleurs.
Et on espère que d'ici cet automne, tout se passe bien. Et puis elle avait une seconde question qui concerne des jacinthes. Elle a des jacinthes et des narcisses en pot défleuri. Est-ce qu'elle peut couper les fleurs fanées, les enlever des pots et mettre les oignons séchés pour les replanter en terre cet automne?
Alors, c'était une très bonne question parce que beaucoup de personnes ont ces bulbes maintenant qu'on a achetées en pot fleuri. Il y a deux solutions. La première, c'est déjà pas couper le feuillage ni les fleurs, parce que c'est ça qui va faire que l'oignon va finir de mûrir, va finir de se remplir. Alors si elle veut les garder comme elle demande pour les mettre séchés, ça, c'est possible, mais il faut laisser le feuillage, les bouts de feuilles et tout sécher, et puis dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, quand tout le feuillage sera sec, alors là elle peut nettoyer son bulbe, enlever les parties sèches et le garder dans un endroit sec, sans humidité, et puis les replanter à l'automne. Ça c'est la solution, beaucoup ne le font pas, c'est plus simple, à mon avis moi je le ferais différemment, c'est que maintenant aller la planter directement en pleine terre, dans un endroit tranquille où c'est qu'elle ne fera pas de jardinage, pas bêcher, un bourg de gazon comme ça, faire un trou, la planter avec le feuillage et le laisser dans le sol finir de sécher, et puis cette feuille va disparaître, et puis à l'automne elle sera déjà plantée, et au printemps elle va directement avoir une nouvelle floraison, puis une nouvelle pousse. C'est plus facile parce que de les mettre en bac en hiver, en automne pardon, des fois on les oublie et puis après ben, elles sont perdues, donc autant les planter directement, et puis comme ça après elles sont déjà là l'année prochaine.
Merci Olivier pour tous ces bons conseils pour Elisabeth de Basse-Cour qui nous a envoyé un formulaire via nos sites internet. Vous pouvez le faire vous aussi. C'est sous onglet émission question aux jardinières. On attend aussi vos appels au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou via SMS. Vous tapez jardin un espace. Votre question, vous envoyez tout ça au 939. On se retrouve dans un instant après une petite pause en musique.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud qui répond à toutes vos questions jardinage, comme celle de Paul de Corcelles. Ses plantons ont gelé la semaine dernière et il se demande quoi faire pour les sauver. Il avait des plantons de tomates et de fraises.
Ah, ben voilà, c'est une bonne question. Les problèmes qu'on a eu, ben voici maintenant un mois, on a eu une belle période de chaud, ça a donné très envie de jardiner, c'est clair. Mais il faut toujours savoir que tout ce qui est plantes de tomates, plantes de courgettes, toutes ces plantes qui sont quand même très sensibles avec l'arrivée de cette neige et puis de ces grands froids de nuit, et bien même un tout petit peu protégées avec un petit voile ou comme ça, et bien ils ont souffert. Je dirais que ces plantes de tomates, j'en ai vu quelques-uns et encore hier chez aussi un client, ne repartiront pas. C'était vraiment très fort. C'est pas seulement une petite gelée sur les feuilles. À mon avis, il peut encore attendre. S'il a une partie de la base de la tige qui est un peu verte, peut-être qu'il revient quelques pouces, mais c'est compliqué pour une tomate, une courgette, toutes ces plantes qui sont vraiment sensibles au froid. Par contre, les fraises peuvent avoir les feuilles qui ont frisé, qui ont bruni, comme d'autres plantes. On a même les érables japonais, pour prendre un exemple d'autres soucis du froid. Ils ont le feuillage du dessus qui a un peu passé au brun. Ça, c'est pas très grave parce que ben, la plante a plusieurs poussées de feuilles. Ça veut dire que ces feuilles-là vont sécher, on va pas trop s'en rendre compte. Et puis, ben, le cœur du fraisier, la souche va refaire du feuillage, et puis vont continuer de pousser. Il peut y avoir aussi quelques sur ces fraises, quelques fleurs qui ont peut-être aussi souffert, comme les arbres fruitiers. On attend pour voir, mais son fraisier ne sera pas mort, contrairement aux tomates, ça c'est sûr.
Donc les tomates, il peut les virer et recommencer, c'est ça?
À mon avis, oui, et puis peut-être mieux encore attendre une quinzaine de jours, ce qui était plutôt logique de faire dès le départ. On dit toujours planter des tomates, toutes ces plantes sensibles, comme on disait avant, concombres et tout, pas avant la fin des saints de glace, donc pas avant le 15 mai. On peut gratter quelques jours, mais là, cette année, il y en a qui ont commencé vraiment, vraiment beaucoup trop tôt.
Merci Olivier Ribaud, je rappelle vous êtes avec nous jusqu'à 8h, encore bien 40 minutes. Donc si vous souhaitez lui poser des questions, vous pouvez le faire par SMS au 939 en indiquant le mot jardin avant votre question. Vous pouvez aussi nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou nous envoyer un formulaire comme Elisabeth l'a fait cette semaine. On vous laisse un petit peu respirer et penser à vos questions avec Ariana Grande.
7h, 8h, les jardinières.
Vous avez encore une grosse demi-heure pour poser vos questions, comme celle-ci par exemple. On parle coccinelle. J'aimerais davantage de coccinelle dans mon jardin. J'ai certes planté des fleurs et tout un tas d'abris, mais est-ce que je peux acheter des larves, donc des larves de coccinelle? C'est une bonne idée ou pas? Comment faire? Et on nous précise que c'est le paradis des fourmis et des pucerons chez cette personne. Il y aura donc à manger pour ces coccinelles.
Oui, alors tout à fait. C'est ce que la coccinelle recherche, de ces fameux pucerons et puis surtout ce miel-là de pucerons pour se nourrir. On peut trouver des larves de coccinelle, comme vous l'avez dit, dans le commerce, mais c'est plutôt des commerces spécialisés où c'est qu'ils vont vendre des parasites donc pour lutter contre d'autres parasites. On peut les trouver, ça se trouvera sous forme de petites boîtes avec un peu de petite sable sec dedans et puis elles sont là-dedans. Ce qui sera le plus difficile, ce sera ben déjà ça, de les trouver pour les acheter, puis après de pouvoir les conserver dans l'endroit où elle les voudra, donc chez elle, parce qu'on fera plus souvent des lâchers d'insectes pour lutter contre ces parasites, dans des serres par exemple, dans des endroits fermés, parce que dans la nature, bien sûr, on peut en mettre aussi, mais après elles vont vivre et puis elles vont aller là où elles auront envie. Donc c'est pas forcément, son lâcher de coccinelle restera pas forcément dans les environs de là où elle aura mis ses boîtes de larves de coccinelle. Et puis après, ben, on les va les mettre et puis ça va faire des cycles. Donc c'est automatiquement, une larve va venir adulte et puis après automatiquement, ben, soit elles se reproduisent et puis on les retrouve l'année suivante, ou sinon après, ben, elles vont s'envoler puis elles vont aller migrer dans des autres jardins. Donc c'est assez compliqué de pouvoir introduire des coccinelles. Essayer de garder le plus possible de plantes à fleurs et puis de plantes sans juste déjà justement faire de traitement et puis pour qu'elles viennent naturellement. Comme ça, après, normalement, elles devraient en avoir. On ne les voit pas toujours, mais normalement, il y en a souvent.
Vous avez dit qu'on pouvait acheter les insectes. Donc, on peut acheter soit les larves, soit les insectes.
Non, on peut acheter les larves. Ça s'achète justement dans les magasins spécialisés. C'est plus les professionnels comme nous qu'on peut trouver des boîtes de larves pour lâcher justement dans les cultures, dans les endroits, dans les cultures fruitières et tout. Il y a des coccinelles, il y a d'autres insectes qui peuvent être achetés. Mais ça se fait très très peu encore au niveau privé parce que ça a une durée de vie qui est très courte. Donc, on peut pas les laisser stocker dans un rayon de magasin pendant plusieurs semaines. Ça doit être acheté et c'est vivant. Donc ça doit être acheté et puis mis directement dans l'endroit pour pouvoir être lâché. Alors voilà.
Merci Olivier, on va vous retrouver après une pause pour parler de la météo et de l'inforoute. Et toujours vos questions sont attendues par téléphone au 0900 70 20 20, par SMS au 939. Vous tapez jardin en espace votre question et vous envoyez tout ça au 939 ou alors via les formulaires disponibles sur nos sites internet.
On vous retrouve tout de suite.
7h, 8h, les jardinières, les jardinières.
Les jardinières sont fidèles au poste tous les samedis entre 7h et 8h pour répondre à vos questions jardinage en compagnie d'un professionnel.
Ce matin, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Keuf, qui s'est levé tôt pour vous. On attend vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Vous pouvez aussi choisir l'option formulaire. Il est à disposition sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Vous avez encore une petite demi-heure pour vous manifester et on reprend avec une question de Michel de Courfèvre qui nous dit qu'ils ont planté des patates et les feuilles sont un peu noires dues au dernier gel. Il demande si ces patates sont perdues, Olivier.
Alors non, c'est comme un peu les plantes fraisiers d'avant. Ces pommes de terre ont les feuilles du dessus qu'on congelait, qu'on brunit, comme vous dites. Ils vont sécher et puis c'est un nouveau feuillage qui va ressortir de sa plante, du cœur du pied de pommes de terre. Et puis ça redonnera des nouvelles feuilles. Et puis ça va couvrir ce feuillage qui a été légèrement gelé. Il y a beaucoup de plantes qui sont comme ça, qui sont dans la nature aussi. On a des érables sensibles qui étaient peut-être un peu plus exposés, qui sont brûlés juste sur les extérieurs. C'est pas toutes les plantes qui sont attaquées comme ça de ce froid, mais on a quand même pas mal de dégâts. C'est vraiment sur des grands sujets comme ça va. On a aussi des problèmes sur des petites cultures qui ont été semées toutes jeunes. Alors là, si le cœur et puis les deux premières feuilles ont gelé, alors là c'est perdu. Mais si des pommes de terre, ça va repousser, ça va regrandir sans problème.
Justement, la question suivante concerne une personne qui n'a pas encore mis sa plante dehors et vous demande comment elle doit le faire. J'ai ma plante de verveine citronnée à la cave. Il fait environ 12 à 15 degrés. Il y a des fenêtres dans cette cave. Et cette personne se demande quand est-ce qu'elle peut sortir la plante.
Alors voilà, c'est une bonne chose d'avoir gardé cette plante au chaud. Je pense qu'elle sera dans un environnement maintenant qui correspond peut-être à 12, 15, 20 degrés. Donc il faudrait ressortir cette plante quand on aura de nouveau une température à peu près identique à l'extérieur. Donc attendre encore ces 10 jours qu'on va avoir maintenant pour finir ces fameux seins de glace et puis après mettre sa plante à l'extérieur. C'est là qu'il faut faire attention quand elle la sortira parce que c'est une plante qui a passé plusieurs mois à l'abri de la lumière directe. Ça veut dire qu'elle était à la lumière mais sans avoir le soleil directement. Donc c'est un peu comme un enfant, un nouveau-né. Elle ne va pas la mettre directement en plein soleil, parce que sa plante, elle va brûler du soleil, brûler des rayons UV qui seront trop violents. Donc elle va la sortir progressivement, la mettre dans un endroit très lumineux de nouveau, mais où le soleil ne tape pas directement dessus, et puis la sortir progressivement pour l'adapter, la durcir. On dira que le feuillage devra venir plus vert, plus de la couleur chlorophylle sera plus importante, parce que je pense qu'à l'intérieur, maintenant, sa plante, elle est plutôt verte pâle, donc elle devra habituer cette plante progressivement à ces nouveaux rayons de soleil pour l'adapter, et puis qu'après, elle a un beau feuillage, parce que si elle va la mettre directement plein sud, plein soleil, eh ben, si malheureusement ce jour-là il fait très chaud, eh ben, le feuillage va brûler,
cramer, comme s'il
aurait gelé. Donc faites attention quand vous sortez des plantes de l'intérieur qui n'ont pas eu le soleil direct, il faut les habituer comme une peau, la même chose. Voilà.
Merci Olivier, je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h, hein, encore 20 minutes. Et on poursuit avec un SMS anonyme. Nous avons des poules et nous aimerions faire un purin de fientes de poule. Peut-on utiliser ce purin sur des plants de fraises ?
Alors bien sûr, le purin de poule, de fientes de poule, peut être utilisé comme tous les autres purins. On peut faire des purins avec des feuillages d'ortie, on peut faire des purins avec de la consoude. Il y a des purins de plusieurs sortes qui peuvent être utilisés dans le jardin sans problème. Parce qu'en fait, c'est une matière organique, donc la plante va la transformer. Quand elle absorbera ces matières organiques, elle va être obligée de les transformer. Donc on peut les utiliser dans tout le jardin, dans les légumes, et sans autres, sans problème. Il faut savoir que tous ces purins qu'on fabrique, on va les diluer. Si vous faites un purin d'ortie ou un purin de fiente de poule, vous allez mettre un litre ou un litre de ce purin dans 10 litres d'eau. Comme ça sera un purin qui sera dilué. Vous ne l'utilisez pas pur, parce que sinon, ça peut être trop fort selon comment il a été fait. Donc il faut de toute façon le diluer, et puis le mettre avec une alternance, pas le mettre tout le temps. C'est quand même comme un engrais. Au lieu d'avoir un engrais liquide chimique, mais c'est un engrais liquide qui a été fabriqué avec cette matière. Donc fraises, n'importe quel autre légume, choux, toutes ces plantes qui ont besoin de beaucoup de nourriture peuvent être nourries avec ce genre de purin.
Et on met dans un arrosoir le purin et on verse dans le bac ou on pchite ?
On peut arroser sur une période du soir ou bien le matin, ou quand c'est un tout petit peu humide. Mm-hmm. On peut arroser directement par-dessus sans problème sa culture de fraises, de pommes de terre, de choux ou autres. Bien sûr, pas des salades qu'on va consommer dans les 15 prochains jours. Il faut penser qu'il y a un délai qui ne sert à plus rien de mettre un purin d'ortie ou de poule sur un légume qui va être consommé dans les 4-5 semaines qui suivent. Il faut le mettre au début de la culture, au début de quand les plantes ont été mises en place dans le jardin.
Ok.
Voilà. Et puis, on peut utiliser ça dans toute saison, mais toujours sur une jeune culture.
Merci Olivier. Comme quoi, les poules, elles ne servent pas à faire que des œufs. Elles peuvent faire du purin.
Oui. Ça peut être utilisé aussi sans forcément faire un purin. On peut l'utiliser directement, le mettre, l'épandre comme un fumier, comme directement dans le jardin, soit à l'automne, soit au printemps, avant de planter. On n'est pas obligé de le mettre par la phase liquide. Ça, c'est pour pouvoir l'utiliser après, pendant la saison d'été, quand on refait des nouvelles plantations.
C'est noté. Merci Olivier. On rappelle que vous pouvez nous joindre par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour poser vos questions jardinage à Olivier Ribaud. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou bien sûr via le formulaire disponible sur nos sites sous l'onglet émission. Questions aux jardinières. On se retrouve dans un instant.
Les jardinières.
Et nous, on ne demande pas à la Lune, mais on demande à Olivier Ribaud les questions qu'on a envie de poser sur le jardin, dont celle-ci. Il me restait des racines d'endives dans ma cave. Je les ai replantées dans le but d'en faire des graines. Est-ce que ça va fonctionner, Olivier ?
Alors oui, bien sûr, ça va fonctionner. J'espère juste que les ai replantés ailleurs que dans la cave, donc dans le jardin. Cette racine va faire des feuilles. Elle va grandir, elle va monter, donc elle va venir à fleurs. Et puis ça va faire un joli bouquet de fleurs qu'elle peut laisser sécher. Et puis après récolter la graine, la sécher pour la ressemer de nouveau la saison suivante pour en refaire des nouvelles endives. C'est pas toujours très facile parce que les périodes pour faire sécher cette graine, il ne faudra pas que ça tombe dans une période humide, mais c'est possible, sans problème.
C'est quoi l'avantage en fait de replanter, j'imagine d'avoir ses propres graines, c'est sympa.
Alors c'est compliqué de donner un avantage, c'est possible parce qu'on est quitte d'en acheter ou des choses comme ça. Après à savoir que souvent les endives, les salades, les choux, on peut faire ça avec un chou, hein, on peut laisser un chou monter, il va exploser quand il sera trop grand et puis il va faire une fleur et puis il aura un bouquet de graines. Ça va pas forcément redonner toujours des bonnes graines car à la base un légume il a toujours été croisé déjà, souvent c'est un effin. Donc, un effet, c'est qu'on avait pris de la graine, des étamines sur une plante, remettre sur l'autre, et puis ça donne un croisement pour avoir un beau légume. Alors ça, il faut laisser ça aux grainiers qui font leur métier, et puis qu'on achète des graines. Après, on peut le faire pour le fait de voir comment ça fonctionne, le côté didactique, de montrer à des enfants comment une graine est faite, ça c'est faisable, mais il n'y a pas un avantage de vouloir gagner sur la graine, parce qu'après, le légume ne reviendra pas forcément aussi joli, aussi beau, il reviendra
il sera plus naturel, mais, parce que vous dites qu'ils ont été croisés.
Oui, mais ça s'est fait manuellement, c'est comme on faisait quand on regardait à l'école, on prend les parties femelles qu'on va mettre sur les parties mâles d'une fleur, okay. Et puis ça donnera des nouvelles graines, ça un croisement, c'est ça un F1, donc c'est pas truqué.
D'accord.
C'est juste changer la morphologie pour avoir une nouvelle sorte de graines, mais ça après, une fois qu'on ressème un F1, ne redonne pas forcément toujours la même plante, mais on peut faire des graines avec tous les légumes en fait, parce qu'une fois qu'elles auront poussé, donner le légume, on laisse continuer de pousser et ça va vous donner une belle plante de fleurs, sans problème.
Et puis demain, c'est la fête des mères, Olivier, hein, personne ne va y couper, enfin en tout cas pas les mamans. Et comme chaque année, cette personne s'y prend à la DER, elle aimerait offrir une plante d'intérieur à sa maman qui fleurisse au moins une fois par an et qui soit facile d'entretien. Qu'avez-vous à lui proposer ?
Alors une plante d'intérieur, donc vraiment une plante qu'on laissera tout le temps dedans, donc une plante qui va faire quelques fleurs, notamment aussi beaucoup de feuilles. Moi j'ai toujours un petit penchant pour les anthuriums, j'ai un penchant aussi pour les spatifilums, donc c'est quand même des plantes un peu compliquées si on les connaît pas beaucoup. Mais l'anthurium c'est le plus simple, c'est celle qui fait ces belles plaques rouges avec une petite tige jaune au milieu, il y en a des blancs, il y en a des rouges, il y en a des roses, mais le rouge, et c'est une fleur qui est une plante d'appartement qui est facile et puis qui va refleurir normalement chaque année assez facilement sans se poser trop de questions. Ça va fleurir comme maintenant à ces périodes aussi, donc c'est une plante qui peut être utilisée facilement. On voit aussi beaucoup maintenant les fameuses orchidées, donc ça je pense qu'on ne veut pas les apprendre, mais je pense qu'un anthurium ou un spatifilum, il y a aussi toutes les broméliacées. Les broméliacées, c'est ces plantes plutôt exotiques, alors elles ont des belles fleurs, après il faut arriver à gérer pour faire une floraison, mais l'anthurium c'est la plus simple.
On parle encore de la fête des mamans, hein, comme ça vous n'aurez aucune excuse si vous l'oubliez demain. Demain, je vais offrir des roses à ma maman. Comment faire pour qu'elles se conservent le plus longtemps possible ? J'ai entendu dire qu'il fallait les mettre dans de l'eau tiède.
Alors, je suis pas fleuriste, mais je sais quand même qu'une rose, oui, vous allez la mettre dans une eau tempérée, mais pas trop chaude non plus, hein, plutôt. On va faire une nouvelle coupe du bas de la tige, et puis on va la tremper, qu'elle ait au moins minimum un tiers du bas de la tige dans l'eau. C'est vraiment les petites bases, et puis la garder dans un endroit, un local, une pièce, une chambre, le plus frais possible. Donc même, je dirais, même si c'est à l'extérieur, à l'abri de la pluie, où c'est frais, la rose tiendra le plus longtemps possible. Donc c'est des petites choses simples, mais déjà la recouper, l'eau tempérée, et puis assez d'eau dans le vase, parce qu'elle va boire, et contrôler pour en remettre, sans problème.
Moi, j'ai vu des personnes, la journée, avaient leur vase au salon. Et puis, pour les conserver la nuit, eh ben, elles les mettaient carrément au frigo.
Tout
Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça?
Oui, tout à fait. Les roses, les plantes, les fleurs coupées dans les magasins, dans les endroits où les fleurs coupées sont stockées. Eh bien, nous, quand on va acheter des fleurs chez un grossiste, c'est dans un frigo. On rentre dans le frigo, c'est une grande pièce, alors c'est pas si froid peut-être que la viande, mais c'est quand même un frigo, c'est clair, il n'y a pas de souci. C'est frais, plus la floraison se développe moins vite, donc on peut les garder le plus longtemps.
Mais il n'y a pas un choc thermique entre le moment, enfin, en soirée, vous le mettez hop, au frigo, le matin, vous la ressortez, elle va aimer la fleur?
Oui, non.
Enfin, on ne va pas l'entendre crier, hein, mais...
Il n'y a pas de souci, les fleurs se conservent plus longtemps au frais qu'où il fera trop chaud. On a tous fait cette expérience, un bouquet de roses est très chaud en plein été, il tient moins longtemps que si on le garde l'hiver. Mais il ne faut pas que ça gèle, il faut jusqu'à 4-5 degrés au frais, il n'y a pas de problème. Ça conserve la floraison le plus longtemps possible.
Mais donc on va juste poser la rose comme ça dans le frigo et puis on arrive super le lendemain matin.
Il faut la laisser dans l'eau, donc dans le vase ou dans le récipient. Il faut que la tige soit toujours dans l'eau. Elle va toujours continuer de boire parce que sinon elle va sécher quand même plus vite.
Ok.
Et demain, pour cette fête des mères, il y a les traditionnelles roses. Alors on sait, Olivier, vous n'êtes pas fleuriste, mais quelle autre fleur, on pourrait dire, de saison à offrir?
Ouh, la floraison de maintenant, en fleurs coupées, à l'heure actuelle, on va trouver beaucoup d'autres fleurs. Ça peut être, on avait parlé il n'y a pas très longtemps, des strelitzia. Il y a tellement, la palette de fleurs coupées est tellement grande. On va trouver des lys, on va trouver des œillets, on va trouver beaucoup de fleurs coupées. Je pense que la rose restera, comme on la met pour la Saint-Valentin, reste quand même la fleur coupée la plus courue et puis la plus connue et qui sera, je pense, utilisée le plus demain pour cette fameuse fête des mamans.
Donc si vous êtes une rose, attention, vous allez peut-être finir dans un vase pour cette fête des mères. Olivier Ribaud, donc demain on l'a dit, personne n'aura d'excuses, c'est la fête des mères. Ce week-end, c'est le week-end des Saints de Glace. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part aller acheter des roses pour les mamans, ce week-end?
Alors justement, je crois que ça va être la plus belle chose à faire, c'est d'aller acheter des bouquets de fleurs, parce que pour aller dans le jardin, il faut soit se munir de bottes, mais c'est pas une bonne idée d'aller commencer de jardiner une terre mouillée, car on va plus la tasser, la compacter, et puis c'est très mauvais pour un jardin, donc il faut regarder, il faut se préparer, il faut peut-être faire quelques petits semis, ça on peut commencer maintenant, il y a des gens qui ont voulu semer des tomates, des concombres, des choses qui poussent facilement soi-même, on peut faire ça facilement soi-même, on peut commencer de les semer maintenant dans des petites caissettes sur le bord de la fenêtre en regardant la pluie tomber, et puis ben, d'ici 15 jours elles seront bonnes à repiquer dans les jardins, donc le jardin il faut le laisser un peu de côté, mais je pense qu'il y a plein de petites préparations pour être prêt d'ici ces 15 jours quand on aura de nouveau les beaux jours.
On sent le jardinier qui trépigne là, qui attend.
On a eu beaucoup de beaux et maintenant on a cette fameuse pluie, mais on en a besoin, il faut laisser la nature faire. Mais quand il fera sec, on pourra continuer d'aller faire nos semis de gazon aussi. Beaucoup de gens ont voulu commencer très vite, on a tous essayé, on a tous semé. Ça ne pousse pas beaucoup, c'est normal, le sol est très froid. On attend ce fameux coup de chaud, quand il fera chaud, la terre chauffera et tout pourra germer très facilement.
Donc d'ici une semaine au moins, hein, puisque la semaine prochaine, la pluie sera toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, vous savez quoi faire en attendant. Merci Olivier Ribaud d'avoir été en notre compagnie ce matin et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. On le rappelle, vous êtes pépiniériste à Queuve. En tout cas, merci.
Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Jean-Pierre Ribaud cette fois-ci.
Et si d'ici là, une question jardinage vous vient à l'esprit, eh bien, faites-la nous parvenir, soit par SMS au 939, en n'oubliant pas le mot jardin avant votre question, hein, ou alors via le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet. Nous y répondrons en priorité samedi prochain. D'ici là, bon week-end.
Bon week-end.
7h, 8h. Les jardinières.